J'aimerais savoir raconter de la manière dépouillée dont raconte un photographe, ou comme Edward Hopper raconte sans raconter, en supprimant toute espèce de détail circonstanciel, en allant au cœur des choses, à ce qu'il est impossible d'épurer encore, au pur schéma des récits oraux qui existent et se transmettent sans que personne ne les écrive, invariables dans leurs données de base, mais jamais répétés avec les mêmes mots, récits modifiés par le caractère de chacune des voix qui les racontent, et en même temps, toujours identiques, semblables à une musique de jazz qui est toujours la même, mais résonne toujours différemment. Musique aussi impersonnelle que les mots et les tournures verbales, mais qui chaque fois s'est exprimée comme eux, le plus intime. Musique publique, partagée, secrète. Je suis celui qui se rappelle presque 27 ans plus tard cette matinée de janvier. Je suis et je ne suis pas cet homme jeune, tout juste arrivé à Lisbonne avec un sac de voyage et une vareuse d'hiver, debout sur les escaliers de la place do Comercio, à quelques pas des faibles vagues qui frappent les marches et reculent comme si elles glissaient sur la pierre très lisse, verdie par les algues. Je suis celui qui prend une photo où apparaît une silhouette de dos. Et je suis aussi cette silhouette qui peut être celle d'un voyageur anonyme ou celle d'un personnage inventé. Il y a une équivalence exacte entre le manque d'informations et le mystère. Il n'existe ni un avant, ni un après.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Le 4 avril 1968, Martin Luther King, prix Nobel de la paix et charismatique leader du mouvement des droits civiques, est assassiné à Memphis, dans le Tennessee. Celui qui a tiré la balle de fusil fatale, James Earl Ray, est un petit homme blanc, âgé de 40 ans, qui a fait de nombreux séjours en prison. Il est obsédé par les Noirs et les Juifs, grand lecteur de romans d'espionnage et de traités de psychologie de supermarché. Réussissant à quitter les États-Unis avec un faux passeport, Ray va passer par le Canada et l'Angleterre avant de séjourner 10 jours à Lisbonne, où il tentera en vain de se faire enrôler comme mercenaire pour aller combattre en Angola. 10 jours sur lesquels des journalistes sont ensuite allés enquêter, tentant de retrouver des témoins, sans parvenir à comprendre pourquoi ce criminel, recherché par toutes les polices occidentales, avait choisi cette ville où il ne connaissait personne et un pays dont il ne parlait pas la langue. En 2013, l'écrivain espagnol Antonio Muñoz Molina est à Lisbonne, un lieu qui lui tient à cœur car c'est là qu'il a finalisé l'intrigue du roman qui en 1990 l'a fait accéder à la notoriété. Il y est revenu pour écrire, à la manière de Simenon, l'un de ses auteurs de prédilection, l'histoire d'un type seul dans une ville inconnue. Et c'est là qu'il découvre que James Earl Ray a séjourné au bout de la rue où il s'est installé. Happé par ce trou noir dans la vie d'un assassin, Muñoz Molina va tout lire, tout apprendre sur lui et commencer dans la fièvre un autre livre dans lequel il va mêler le parcours étrange et chaotique de l'homme en fuite au sien propre lorsque, durant l'hiver de 1987, il s'était rendu seul à Lisbonne, abandonnant à Madrid sa femme et son jeune enfant pour tenter de devenir l'écrivain que, jeune arrogant, il se vantait déjà d'être. Comme l'ombre qui s'en va, traduit par Philippe Bataillon, qui vient de paraître au Seuil, est un récit hypnotique, plein de rage, de honte et d'un étrange vide dans lequel vient se lever l'imagination du lecteur. Antonio Muñoz Molina est aujourd'hui l'invité de l'humeur vagabonde et Paloma Goulemeau sera notre interprète.
I've been low, I've been high. I've been sold all my lies. I've got nothing left to play. I've got nothing left to say. I'm a black man in a white world. 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 I'm in love, but I'm still sad. I found peace, but I'm not glad. All my nights and all my days I've been trying the wrong way.
I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world.
I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. And I've lost it.
I'm a black man in a white world. 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 I'm a black man in a white world.
I've been low and I've been high. I've been sold all my life. I got nothing new to play. And I got nothing left to say.
Bonjour Antonio Muñoz Molina. Ce livre-ci, Comme l'ombre qui s'en va, en fait, c'est deux livres en parallèle qui ne sont reliés que par une ville, Lisbonne. Lisbonne est une ville sur laquelle vous avez déjà écrit, puisque c'était L'hiver à Lisbonne, c'était votre deuxième roman qui est paru en France en 1990. Comme s'il y avait quelque chose qui vous appelait dans cette ville. Parce que on se demande pourquoi vous vous êtes intéressé à la personne d'un assassin simplement parce qu'il est passé à Lisbonne. Que représente cet endroit pour vous?
Bueno, es uno de los lugares fundamentales de mi vida, ¿no? Cuando
c'est l'un des lieux fondamentaux dans ma vie quand j'ai commencé à écrire, et notamment ce roman L'hiver à Lisbonne.
Yo nunca había estado en Lisboa.
Je ne m'étais jamais rendu à Lisbonne.
Solo tenía la historia.
Je voulais que l'histoire se finisse à Lisbonne parce que j'aimais le nom de Lisbonne. Et donc je rédigeais ces romans. Et est arrivé un moment où je me suis aperçu que pour pouvoir finaliser ce roman, il fallait se rendre à Lisbonne. Parce que mon imagination n'était pas suffisante.
Cuando fui a Lisboa, cuando acababa de nacer un hijo
mío, je me suis rendu à Lisbonne après juste la naissance de mon deuxième enfant, mon fils, et j'ai découvert à Lisbonne
Una ciudad, ¿no? Es decir, no
une
solo,
ville, c'est-à-dire que cette
no
ville m'est apparue, c'est-à-dire que je n'ai pas seulement vu toute l'histoire,
pensado, ¿no?
Toute l'histoire que j'avais imaginée, ce roman.
Nacer de la misma ciudad,
on
¿no?
avait l'impression que mes cheminements, mes promenades, mes errances dans la ville donnaient naissance
ciudad,
au roman.
Cercana,
c'était une ville qui m'était proche, mais en même temps totalement inconnue. C'est une ville qui est proche de la frontière espagnole, mais en même temps, elle est tellement différente.
Les Portugais
parlent beaucoup plus bas que les Espagnols, ce que j'apprécie, parce que moi, je parle très bas aussi. Lorsque vous êtes à Lisbonne, vous avez cette sensation de traverser l'Afrique, l'Asie, le Brésil. On trouve une empreinte du reste du monde, et cette empreinte, elle est très marquée, elle est claire. Et c'est comme une métaphore visuelle, c'est-à-dire vous vous rendez sur la place du commerce, et là vous avez un escalier qui va jusqu'à l'eau. Et cette eau, eh bien, c'est le début à tous ces grands voyages qui ont mené ces navigateurs en Orient, aux Amériques. Et ça a été un coup de foudre pour moi. On peut tomber amoureux d'une ville.
Et ça
a été le cas.
Antonio Muñoz Molina, j'ai aussi l'impression que pour vous, écrivain, romancier, il faut toujours être ancré dans un territoire ou dans l'histoire avec un grand H. Comme si votre imaginaire d'écrivain ne pouvait se développer vraiment qu'une fois que le cadre était fixé, alors là, une ville aussi, mais l'histoire, un événement historique. Vous vous appuyez beaucoup là-dessus et après vous vous envolez.
C'est
tout à fait ça.
Je
ne possède pas une imagination qui s'éloigne de la réalité. Vous avez parlé d'ancrage. Effectivement, ces histoires que je relate, elles sont ancrées dans des lieux ou dans des moments. Mon imagination, je dirais, n'a pas beaucoup de fantaisie. J'ai besoin d'un lieu précis, j'ai besoin d'un événement concret. Et c'est ma relation à ce lieu qui va faire naître l'histoire. C'est ce qui s'est passé avec Lisbonne et c'est ce qui s'est passé aussi avec Memphis dans ce roman.
Parce que quand j'avais écrit déjà beaucoup de la novela,
j'étais déjà très avancée dans le roman et c'est un peu un moment qui était un moment parallèle à mon voyage à Lisbonne. J'avais donc rédigé une grande partie du roman. Je savais tout ce qui tournait autour de Memphis, j'avais beaucoup de documentation, j'avais le plan de la ville, je connaissais la topographie de la ville, mais malgré tout, lorsque je me suis rendu à Memphis, cela a été une expérience qui n'avait rien à voir, quelque chose de totalement inattendu. Et de là est née la fin, la conclusion totalement inattendue de ce roman, qui est le chapitre qui porte sur ce voyage à Memphis, mais aussi du point de vue de Martin Luther King.
Porque solo cuando estuve en Memphis,
parce que c'est seulement en me rendant à Memphis que j'ai compris que Martin Luther King devait être présent dans ce roman, pas simplement comme un personnage lointain, mais comme quelqu'un qui voit le monde. Et nous, on voit le monde à travers de son regard.
Alors ce livre, comme L'ombre qui s'en va, Antonio Muñoz Molina, il s'ouvre par Lisbonne, par cette place qui descend vers l'eau, comme vous l'avez décrit déjà, et il y a un personnage, et c'est vous aujourd'hui, mais c'est vous en 1987, vous étiez un jeune écrivain, vous aviez commencé à écrire un livre qui traitait de l'histoire d'un musicien de jazz à Lisbonne, et tout d'un coup, il vous a fallu aller à Lisbonne, pour que votre roman commence à prendre de la chair. On va écouter la première lecture de cet entretien.
C'est au début de janvier 1987 que je suis allé pour la première fois à Lisbonne parce que j'écrivais alors un roman qui s'y déroulait en partie. Je ne réalisais pas à quel point j'étais jeune. Je croyais que je ne l'étais pas, que ma vie était établie sans que rien ne puisse beaucoup changer dans l'avenir. 30 ans, presque 31, marié, un enfant et un autre qui s'annonçaient, un titre de propriété à mon nom et un emprunt que je finirais de rembourser au début du siècle suivant, un emploi stable de fonctionnaire. Sous une surface tranquille, ma vie était une juxtaposition désordonnée de vies fragmentaires, un tracas permanent de désirs inassouvis, de morceaux éparpillés qui ne s'ajustaient pas. Une grande part de ce que je faisais m'était étrangère. Ce que j'étais au fond de moi, ce qui m'importait vraiment demeurait caché pour la majorité de ceux à qui j'avais affaire. Par paresse, par la simple inertie des contraintes extérieures, j'étais installé depuis des années dans la résignation et l'amertume. dans l'impression d'habiter des mondes provisoires et très éloignés l'un de l'autre, dont aucun ne m'appartenait complètement. J'étais fonctionnaire parce que je n'avais pas trouvé d'autres moyens de gagner ma vie, mais aussi, ou en réalité, j'étais écrivain, même si je n'utilisais jamais ce mot spontanément. Entendre quelqu'un se donner lui-même le titre d'écrivain me semblait aussi gênant que de l'entendre se dire poète. Comment peut-on être sûr d'être un poète ? Je menais une vie au bureau et une autre au dehors, tout aussi fragmentée. J'étais marié, mais ma femme travaillait dans une autre ville et nous nous voyions en fin de semaine. Du vendredi après-midi au dimanche soir, j'étais marié et j'avais un enfant. Du lundi au vendredi, je vivais seul. Je prenais un autocar le vendredi après-midi et en un peu plus d'une heure, j'arrivais dans mon autre existence. Mes univers étaient cloisonnés sans presque aucun contact les uns avec les autres. Leurs habitants ne se mêlaient pas et, dans bien des cas, ils ignoraient leurs existences respectives. Je pouvais, me semble-t-il, m'installer de manière tellement complète dans n'importe laquelle de mes vies que les autres s'effaçaient sans difficulté ou restaient en suspens, attendant que j'y revienne, comme une maison reste intacte durant l'absence de son maître. Je ne ressentais pas toujours la tension secrète de l'imposteur, mais je n'éprouvais jamais le confort de la sincérité. Ma vie pouvait être résumée par le titre d'un roman de Patricia Highsmith, « L'empreinte du faux ».
On vient d'entendre cette page qui est tout à fait au début du livre, Antonio Muñoz Molina. Vous vous remémorez ce jeune homme, fonctionnaire et écrivain, qui essayait de devenir écrivain que vous étiez. C'est un passage qui vous décrit sans beaucoup de complaisance. Vous vous regardez aujourd'hui, ce jeune homme prétentieux que vous étiez, ce jeune homme immature aussi, ce jeune père qui quittait sa famille pour aller écrire, sans beaucoup de gentillesse. C'est comme ça que vous vous voyez vraiment ?
Eso fue una de las sorpresas de la escritura del libro, ¿no?
Lorsque j'ai écrit ce livre, je n'imaginais pas à quel point mon expérience personnelle aurait cette importance. Je voulais simplement expliquer quel était le processus littéraire et la façon dont j'étais rentré dans l'écriture du roman d'un hiver à Lisbonne. Mais lorsque j'ai commencé à écrire, je me suis dit, voilà, je suis en train d'écrire à cette époque et je dois me rendre à Lisbonne. Et c'est alors que je me suis souvenu que pendant ce temps-là, c'était juste le moment de la naissance de mon fils. C'est un souvenir que je n'attendais pas là. Et cela a déclenché un certain nombre de souvenirs que de manière involontaire j'ai dû mettre sur le papier. Alors, je ne savais pas si ça allait rentrer dans le livre ou faire partie d'un roman. Je me laissais vraiment porter sans savoir où cela me mènerait. Parce que, comment dire, j'étais un peu pudique face à cela. Et puis, je ressentais la force de cette...
Du regret.
C'était quelque chose qui, pour moi, était une vraie surprise.
Le livre
a été vraiment celui qui a fourni cette surprise. C'est-à-dire que je n'avais à aucun moment le projet d'écrire, en fait, mes mémoires, en fait, qui correspondent à cette époque. Non, je ne voulais pas non plus me confronter à cet homme que j'avais été jeune, mais je me suis retrouvée avec ce jeune homme sur le chemin.
Mais c'est un roman sur la culpabilité, Antonio Muñoz Molina, sur votre culpabilité et sur celle de Ray, l'assassin de Martin Luther King. Sauf que vous, votre personnage, tel que vous le décrivez, il ressent de la honte pour cette culpabilité, alors que le personnage de Ray n'en ressent pas la moindre. Donc c'est deux romans qui s'entremêlent dans celui-ci, dans ce livre-là. Ce sont des variations sur la culpabilité et la façon dont les hommes peuvent vivre avec.
Si, en partie, si.
En partie, mais no son certes, novelas, son, mais ce ne sont pas deux romans.
En contrapunto,
c'est un roman en contrepoint.
Para hablar en términos musicales,
si on reprend des termes musicaux,
está en
il y a
con el otro,
un personnage qui finalement est en relation avec l'autre et cette relation est continue. On ne peut pas séparer une histoire de l'autre.
También hay otra cosa que es la voluntad de desaparecer.
Il y a aussi cette volonté de vouloir disparaître.
La voluntad de desaparecer,
cette volonté de disparaître qui, à mon sens, existe chez tous à un moment ou à un autre dans la vie. Lorsque l'on n'arrive pas à faire face aux conséquences des actes que l'on a commis, lorsque quelqu'un n'a pas le courage de suivre ses convictions et d'agir en ce sens, eh bien, on veut disparaître.
Si quiere desaparecer en la ficción o se quiere desaparecer,
s'il veut disparaître, soit dans une fiction ou simplement en partant. Et c'est pourquoi je pense que cette image de l'homme qui fuit et qui change de nom est très forte. Et il voulait Rey.
Il
disait qu'il voulait se cacher dans un trou
et
ne plus jamais en bouger.
Y a veces yo creo que cualquiera, no
j'ai l'impression, et je ne parle pas que pour moi, hein, j'ai l'impression qu'on a cette impulsion, cette envie de se cacher, de disparaître, de s'effacer du monde.
Est-ce que ça veut dire, Antonio Muñoz Molina, que d'une certaine façon, devenir écrivain, c'était une fuite ?
Sí, hasta cierto punto, claro.
Jusqu'à
que sí.
Un certain point, je dirais que oui.
Sé si se puede llamar,
je ne peux pas
quizás muy dramático decir una huida, pero,
dire qu'on peut qualifier ça de fuite, c'est peut-être trop dramatique, mais plutôt un désir de
otro tiempo, otro lugar,
d'être
otra,
présent dans une autre époque,
virtual,
un autre lieu, no? Un
yo
monde virtuel.
Uno de los impulsos principales
je crois que
de
c'est
la ficción
l'une des premières impulsions de la fiction pour un écrivain comme pour un lecteur ou pour n'importe quelle personne.
Continuamente uno está huyendo,
à tout moment, on fuit de la maison dans l'autobus et parfois on fuit parce que dans l'esprit puisqu'on imagine qu'on est en vacances.
Hay una cosa que dice Baudelaire,
il y a Baudelaire qui disait et qui qualifiait
la fuite et le droit du désordre.
Et c'est exact. On veut avoir ce droit de fuir et ce droit au désordre.
Comment est-ce que vous avez pu vous intéresser à cet homme qui, au fond, est un personnage assez falot ? Il a peur de tout, il est haineux. C'est pas quelqu'un qui a du panache. Et vous lui donnez, vous, une envergure. Vous en faites un personnage de roman. Mais avant de le décrire comme ça, dans votre livre, vous avez fait des recherches de manière quasiment obsessionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression parfois, quand on vous lit, que cet homme est rentré dans votre tête par l'intermédiaire d'Internet, puis parce qu'il écrit, parce qu'il a beaucoup écrit. Vous êtes devenu un peu obsessionnel.
Absolutamente.
Tout à fait.
Yo también me preguntaba.
Et je me suis aussi posé cette question.
Pourquoi me intéresse tant pour cet individu que est un peu intéressant.
Pourquoi cet individu m'intéresse tellement, au final il est pas si intéressant que ça.
Pero yo creo que cada vez estoy más convencido que
mais je suis chaque fois plus convaincu
que
l'on ne choisit pas le sujet sur lequel on va écrire, on se laisse porter.
Uno se deja llevar por algo
que se laisse porter par
que le attire mucho,
quelque
que
chose
un poco
qui va l'attirer et c'en est même presque un embarras d'avoir cette attirance.
Parce que no me sentía muy contento,
je n'étais pas très heureux à certains moments.
Pourquoi tengo yo que hay en mí que
mais qu'est-ce qui fait qu'en moi j'ai cette attirance envers cet individu qui est très désagréable.
¿Sabe lo que pensaba muchas veces et parfois, en esos personajes
vous savez ce que j'ai pensé
Simon,
j'ai pensé à ces personnages de Simenon.
Esos personajes que son tan frecuentes
ces personnages
Simenon,
qui sont tellement présents dans les romans de Simenon.
Que son, por ejemplo, l'homme qui regardait passer le train. Estos personajes
tous ces personnages
que están solos, completamente
qui sont
solos,
seuls,
que van, están siempre
totalement seuls et qui sont toujours en mouvement.
Ils vont faire un désastre.
Et qui provoque des désastres. Hein. C'est très puissant.
Mais au point même, Antonio Muñoz Molina, que vous rentrez dans la tête de James Earl Ray, vous lui attribuez des pensées. Est-ce que vous avez pu vérifier qu'il avait ce type de pensée ? Parce qu'il a beaucoup écrit, mais des versions toujours différentes. On ne sait pas, en fond, ce qui est vrai de ce qui est faux dans les pages qu'il a écrites lorsqu'il était en prison, quand il a été rattrapé après son escapade à Lisbonne. Est-ce que là, c'est la licence absolue du romancier ? Ou est-ce que vous vous appuyez sur des traces réelles ? Ou est-ce que ça n'a pas d'importance, au fond ?
Si, tiene importancia, claro que la tiene.
Évidemment, cela a une importance. Il y a une licence laissée à l'écrivain, mais ce n'est pas une licence absolue.
Es como, improvisar sobre una melodía.
C'est un peu comme si vous improvisez sur une mélodie existante. Il y a des limites dans l'improvisation.
Una gran parte de las cosas que yo he puesto en la
et une partie des choses que j'ai mises dans l'esprit de Ray
están directamente inspiradas
sont inspirées directement de l'élément qu'il a écrit, qu'il a dit ou qu'on écrit ou raconté des gens qui avaient été avec lui.
Pero luego hay un salto que es el,
mais ensuite, il y a un saut,
como el saltar una frontera,
comme
que es
si
la
on sautait une frontière, cette frontière de
la
se dire que l'on se place dans l'esprit de quelqu'un. Ça, c'est la fiction, et juste de la fiction. On peut avoir toute la documentation existante, mais cela reste de la fiction. Je vais vous donner un autre exemple.
Le
chapitre qui porte sur Martin Luther King dans le roman.
Toda la información que
toute
en ese
l'information qui est reprise dans ce chapitre sort d'informations qu'on m'a données, de nombreuses lectures. Mais tout ce flux,
interior,
tout ce monologue intérieur, c'est moi qui l'ai inventé.
Nadie sabe
personne
que
ne sait
que había en la mente
ce qui lui passait par l'esprit. Mais la fiction, c'est justement son rôle.
Et d'ailleurs, cette fiction vous permet de rentrer dans le crâne de James Earl Ray, notamment lorsqu'il passe une nuit, des nuits en prison, à, non pas à fomenter déjà cette espèce de projet d'assassinat qu'il va mener à bien, mais où il fait mûrir sa haine à l'écoute d'une radio.
La nuit, dans l'obscurité de la cellule, la tête contre le tissu rêche et sale de l'oreiller, pendant les heures où ne l'obsédaient pas les possibilités d'évasion, le monde extérieur lui était parvenu au travers de la radio, du transistor japonais à coque en plastique qu'il avait acheté à l'Economa. Y appuyant son oreille, il entendait les voix, les publicités, les chansons de Johnny Cash qui l'émouvaient, des informations à propos d'inconnus qui devaient être tout à fait familiers pour ceux du dehors. Il entendait en direct des sirènes, l'écho de coups de feu, des cantiques, les sermons des prédicateurs, les cris irrités des citoyens blancs du Sud. Et parmi tout cela, de plus en plus familière, la voix hypocrite, la voix bien timbrée et solennelle. Celle du plus grand des tricheurs. Ce noir d'une race tellement brouillée qu'il avait la bouche et le nez d'un noir d'Afrique et des yeux d'Asiatique. Celui qui élevait la voix en invocation biblique, éveillant la ferveur des foules à la peau noire qui le suivait, les lançant comme des armées barbares à la conquête des villes du Sud, ou à l'assaut des écoles et des autobus, du comptoir des cafétérias, le prophète au costume en soie sur mesure, aux boutons de manchette et à l'épingle de cravate en or, le mouton noir déguisé en agneau, le communiste dissimulé qui citait la Bible de mémoire, le prédicateur licencieux qui couchait avec des femmes blanches indignes, comme celle qu'il avait vue en Allemagne pendant son service militaire, quand il avait commencé à comprendre véritablement la profonde corruption du monde, l'imposture de tout ce qui semblait le plus sacré, femme blonde qui couchait sans hésitation avec des soldats noirs en échange d'une paire de bas ou d'un paquet de cigarettes, tellement infectée par eux qu'ensuite elle contaminait par leur maladie vénérienne les blancs imprudents qu'elle séduisait.
I have a dream that one day on the red hills of Georgia.
Depuis qu'il avait le téléviseur, il avait pu étudier ce visage de plus près. Une caméra de télévision agit comme des jumelles. Et quand sur l'écran la neige blanche et grise s'est transformée en image, la première chose qu'il a vue était ce visage en gros plan, dans le noir et blanc tremblotant de l'écran bombé, ce visage en sueur sous les projecteurs de la télévision, ou à midi sous le soleil, en haut d'une tribune, un visage large, charnu, aux lèvres épaisses, avec un double menton de goinfre franserré par le col de la chemise, le col irréprochable d'une chemise sur mesure et très bien repassé. À l'arrière du téléviseur, sur la coque en plastique bon marché, il a gravé avec la pointe de son coupe-ongle Martin Luther Kuhn.
Antonio Muñoz Molina, pour se mettre à la place de James Earl Ray dans ses pensées haineuses. C'est un homme raciste, on appelle ça des white trash aux États-Unis. Il vient d'un milieu terriblement raciste, il déteste les Noirs, il est du Sud. Est-ce que ça vous a procuré des cauchemars? Est-ce que la présence de cet homme en vous, non seulement au bout de votre stylo, mais dans votre tête. Ça vous a mis mal à l'aise pendant un certain temps.
Si, si, porque cuando uno ve, por ejemplo,
parce que las imágenes, los documentales, vous revoyez les images qui sont présentes dans les documentaires,
cuando los activistas de los derechos civiles,
c'est-à-dire lorsque tous les activistes qui défendaient les droits civils, tous ceux qui se rendaient donc dans ces manifestations dans le sud, dans les autobus, donc vous voyez ces autobus, ces Freedom Autobus, avec ces blancs, ces noirs, tout à fait pacifistes, et vous voyez à quel point ils sont agressés, et c'est une agression physique
terrible, no,
qui est terrible. Cette haine, c'est la haine de gens pauvres
que no tienen otro privilegio,
qui n'ont que ce privilège,
que ser que no ser negros.
Et ce seul privilège de ne pas être noir.
Mais vous venez, vous, d'un village d'Andalousie, vous êtes un fils d'une famille de paysans, vous êtes parti. Mais en 68, lorsque Martin Luther King a été assassiné par James Earl Ray, vous aviez 12 ans. Comment est-ce que cette histoire-là, précisément, vous a rattrapé, Antonio Muñoz Molina ? Est-ce que vous y pensiez depuis longtemps, ou est-ce que c'est vraiment Lisbonne qui a fait la rencontre avec James Earl Ray ?
Si, la question ahí es la rencontre, no? El cómo se mezcla una cosa.
La question, c'est donc la rencontre, comment l'une et l'autre se mélangent. Je pense qu'un roman n'est pas d'une simple et seule idée, mais en fait de la rencontre de deux images, le choc entre deux images. C'est comme une réaction chimique.
A mí siempre me había interesado mucho el movimiento de los derechos civiles.
C'est vrai que j'ai toujours été très attiré, intéressé par ce mouvement de défense des droits civils aux États-Unis. Non seulement pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons culturelles.
Tengo mucho interés por la cultura afroamericana.
La culture afro-américaine m'a toujours beaucoup intéressé, notamment au niveau de la musique.
Entonces eso me ha atraído siempre.
Alors c'est quelque chose qui m'a toujours fortement attiré. Alors il y a eu cette attirance politique aussi, parce que le mouvement qui défend les droits civils m'a toujours semblé être un mouvement qui devrait être repris en Europe. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout en Europe. Mais c'est un activisme très pragmatique et plein
d'idéalistes.
Cette veine de pragmatisme et d'idéalisme me plaît énormément, me séduit.
Et
c'est pour ça que j'ai été intéressé par tous les documents que j'ai pu lire qui portent sur ce sujet.
Mais
pourquoi à un moment on va écrire un roman? C'est ce petit détail
de
Ray présent à Lisbonne.
Es como una foto,
c'est un peu comme
una
cette
foto
photographie de Lisbonne, et vous découpez la silhouette de Ray et vous la collez là. Et de ce choc, il y a ce déchaînement. C'est en fait ce qui réveille l'imagination, ce choc. Sans ce choc, il n'y a rien. Il n'y a pas de roman. Il se passe autre chose. Alors c'est un intérêt plus culturel, plus politique. Mais il n'en est pas un roman.
There's an old friend that I once heard say, something that touched my heart, and it began this way. I was born by the river in a little tent, and just like the river, I've been running ever since. He said it's been a change is gonna come. Oh yeah. He said it's been too hard living, but I'm afraid to die. I might not be if I knew what was up there. Sky.
could you lower those signs, please? I have some very sad news for all of you, and that is that Martin Luther King was shot and was killed tonight in Memphis.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Antonio Muñoz Molina, au fond, quand on lit dans la longueur vos romans, on se rend compte que pour vous, l'histoire, avec une majuscule, fait partie intégrante du domaine du romanesque, du roman. C'est une branche du roman, au fond, l'histoire.
Non, absolument non. Je suis moderne, non, je suis postmoderne.
Je suis moderne, je ne suis pas postmoderne.
Entonces, yo creo que la. Que es muy importante conocer la historia.
Je crois qu'il est essentiel de connaître son histoire et de ne pas tomber dans les fausses vérités de l'histoire. Je crois que nombre des désastres par lesquels le monde est passé viennent de ce mensonge historique. Autre chose, c'est que mon imagination, comme vous le disiez au début, elle est totalement ancrée dans les lieux, dans les événements. Et pour moi, l'histoire est un matériau très important au moment d'écrire de la fiction. Mais ça n'a rien à voir avec l'histoire, parce que moi j'ai cette liberté. Et l'historien n'a pas cette liberté. Moi, j'ai une liberté, toujours sous parole, si on peut le dire ainsi.
Et il y a autre chose qui m'intéresse beaucoup, qui est...
Et je suis toujours très intéressée par la façon dont les gens les plus ordinaires vivent des événements historiques. C'est quelque chose qui toujours me surprend. Par exemple, lorsque quelqu'un va lire l'éducation sentimentale.
Comment se voit la révolution de 1848?
Alors, est présentée la révolution de
1848.
Donc, Frédéric Moreau est amoureux de Madame Arnault, il veut la voir et la révolution est là comme décor. Mais lui, il ne la voit pas.
C'est comme Fabrice de Dongo en
Waterloo.
Donc, c'est parce qu'il y a une chose qui est. La experiencia de las personas comunes.
Il y a une chose qui est l'expérience de ces gens ordinaires. Et cette expérience n'a rien à voir avec ce que va exprimer ou raconter l'historien. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et par exemple, ce qui m'a beaucoup changé, c'est d'avoir vécu le 11 septembre à New York.
Comparar mi recuerdo.
Pouvoir comparer ce qu'est mon souvenir avec ce qui est l'histoire objective. Mon souvenir est par morceaux, il est incohérent, il est subjectif, mais en même temps, il y a plein de détails qui sont révélateurs.
Et que
moi seul, je peux connaître parce que j'étais présent.
Alors, dans cette histoire qui est très présente dans votre livre, Antonio Muñoz Molina, il y a comme un reflet, alors Ray est le personnage principal, mais il faut bien s'intéresser à Martin Luther King. Et en fait, c'est assez étonnant parce que vous le présentez comme... C'est un homme, lui aussi, inquiet. On aurait pu penser qu'il était comme Jésus-Christ marchant sur les flots. Et en fait, vous en faites un personnage tourmenté... pas bien dans sa peau, mal à l'aise, et en même temps plein d'une force de vie incroyable. D'ailleurs, on va écouter une page de votre livre qui le décrit le jour de son assassinat.
Il aimait les plats succulents du Sud, les portions démesurées des restaurants de Memphis, les filets de poisson-chat empilés, panés et frits, les côtelettes grillées à l'excès et leur odeur de charbon de bois, luisante et comme caramélisée au barbecue. Le porc fumé au goût extrêmement délicat, la texture pulpeuse des pieds de porc, et le thé glacé sucré. Et la bière très fraîche dans de grands verres débordant de mousse qu'il fallait essuyer du revers de la main. Et les haricots noirs et le riz et les patates douces crémeuses. Toute cette magnificence des présents de Dieu. La générosité de la terre, plus fertile que nulle part ailleurs dans cette plaine du Mississippi, paradis terrestre gâché par l'injustice et l'aveuglement des hommes, ravagé par une misère d'autant plus incompréhensible qu'elle n'avait pas de raison d'être. Dieu prenait aussi plaisir à l'odeur de graisse des viandes grillées sur l'autel des sacrifices, celle qui montait des barbecues de Memphis. Il est entré dans la chambre inondée de la clarté rougeâtre du couchant qui allongeait les ombres. Avec difficulté, il a terminé de boutonner sa chemise.
il n'arrivait pas à introduire le dernier bouton dans la dernière boutonnière, il lui glissait des doigts. Depuis peu, il avait grossi, non à cause des plaisirs de la nourriture et de la boisson, mais de quelque chose de plus sombre. Manger en hâte et sans désir, boire plus qu'il n'aurait dû, boire pour apaiser son angoisse, pour s'occuper, fumer au point d'avoir les poumons douloureux et se réveiller tôt le lendemain matin dans une chambre d'hôtel qui sentait le tabac refroidi et la cendre, l'eau mêlée d'alcool au fond des verres, sans savoir dans quelle ville il se trouvait parce que cette chambre était identique à n'importe quelle autre, comme l'était la fatigue, la gueule de bois et les cachets pour dormir. Il éprouvait de la honte à se voir gros sur les images de la télévision, méconnaissable, avec sur la peau une brillance maladive et la transpiration causée par les projecteurs, sueur de l'alcool et de l'angoisse. En nouant sa cravate, il ressentait la pression du col de chemise sur son double menton. Il aimait le contact fluide de la soie entre ses doigts. Dans le mouvement pour les droits civiques, il y avait des combattants pleins de ferveur qui pratiquaient l'ascétisme comme une âpre et perpétuelle pénitence. Comme si le moindre plaisir était une frivolité, une trahison de la cause des opprimés. Ils auraient voulu s'habiller d'une peau de chameau comme Jean-Baptiste avec une courroie de cuir autour des reins, se nourrir de sauterelles. Mais lui, il aimait les bonnes eaux de Cologne. Le mélange subtil de parfums qui émanaient des femmes les plus séduisantes. Les coups de pied et les chevilles graciles dans les chaussures à talons.
Antonio Muñoz Molina, on vient d'entendre votre peinture de Martin Luther King. C'est un ogre, il aime la vie, il aime les femmes, il a d'ailleurs une liaison avec une femme dans cet hôtel. Il dévore, au vrai sens du mot, et en même temps, on sent qu'il est... Est-ce qu'il douterait de lui, pour vous ? Est-ce que lui aussi aurait une sorte de culpabilité ? Parce qu'on vient de voir Ray coupable, vous-même en 87, habité par la culpabilité. Est-ce que lui aussi, quelle est cette culpabilité qu'il traîne ?
Eso es muy interesante. Martin Luther King,
c'est justement très intéressant. Après la mort de Martin Luther King, a été canonisé en quelque sorte. C'est devenu un saint.
Il était un héros.
Et c'était un héros, mais pas un héros en une seule pièce. Et je pense que ça le rend d'autant plus intéressant et ça lui donne d'autant plus de valeur. Parce que généralement, les grands révolutionnaires doivent être des ascètes, d'une certaine façon.
Mais
lui n'avait rien d'un ascète. Il n'avait aucune vocation à se lancer dans le sacrifice. Il avait une envie de profiter de la vie. Et la dernière chose qu'il ait dit dans sa vie, ça a été, il a dit à un ami qui était là, je voudrais que ce soir tu me chantes.
Take my hand, precious Lord. C'est
la dernière chanson qu'il a demandé, juste avant de mourir.
Et il se voyait attrapé.
Et il se voyait piégé par ce personnage, parce qu'il avait une vie très difficile, une vie de militant allant d'un endroit à un autre. Et à cette époque, en 1968, il se trouvait dans un creux dans sa vie, le moment le plus difficile de sa vie, parce
qu'il
s'était confronté au président Johnson, qui jusqu'à là avait été son allié, alors qu'il avait précisé qu'il était contre la guerre du Vietnam. Et jusqu'alors, Johnson avait été son allié, et là, il y a une rupture. Et en même temps, du côté gauche, les Black Panthers et tout le mouvement non-violent étaient totalement décrédités. Lorsqu'il s'est rendu à Memphis, il se trouvait dans un état de désespoir. C'est très intéressant parce que le soir même où il a prononcé ce discours très célèbre, qui précède juste sa mort et que l'on retrouve dans le roman, il ne voulait absolument pas faire ce discours au sein de cette église. Il n'avait plus de force, il était désespéré, il était épuisé physiquement.
Lorsqu'il
prononce ce discours, l'ensemble des gens autour de lui se rendent compte qu'il est apaisé.
Entonces, para mí, yo por eso me quise inventar
ese momento final de serenidad. C'est pourquoi j'ai voulu inventer ce moment de sérénité à la fin.
Asomado al balcón,
il est au balcon et il regarde vers l'ouest.
Mais d'ailleurs, ce moment, alors ça c'est le privilège du romancier, de l'écrivain, c'est de pouvoir dilater le temps, le compresser, le réétendre. Et là, les quelques minutes qui précèdent l'assassinat de Martin Luther King tiennent énormément de place dans le livre. Vous décrivez très minutieusement chaque geste, chaque pas de James Earl Ray, chaque pensée de Martin Luther King. Et puis, il y a ce moment où tout peut basculer. Parce que déjà, une fois, l'assassin n'a pas pu tirer. Martin Luther King s'était retiré dans la chambre. Et c'est le moment où l'histoire peut changer.
Et en plus, la nuit tombe.
Et c'est le moment où le roman existe. Ces moments où l'histoire peut prendre un sens ou un autre, c'est le moment où vous êtes pleinement écrivain. C'est vous qui choisissez. Bon, là, l'histoire a choisi, mais vous pouvez, parce que vous pouvez écrire dans ces interstices.
C'est mon droit, non?
C'est pour ça pour lequel.
C'est la raison pour laquelle j'aime écrire des romans. Mais c'est un peu comme ça.
Antes hablábamos de la historia.
On parlait de l'histoire cuando, juste il y a quelques instants. Et lorsque nous étions marxistes, nous pensions que l'histoire était totalement écrite. Comme les chrétiens, les marxistes, vous dites que l'histoire est faite de lois et qu'elle part dans une direction. Lorsque l'on contemple l'histoire et que l'on l'observe de près, on s'aperçoit que tout dépend des détails, de tout petits détails.
Notre imagination nécessite.
Notre imagination a besoin de trouver une cause terrible à des conséquences terribles. Mais il est possible que les choses ne soient pas comme cela.
James Earl Ray est une personne complètement banale.
James Earl Ray est un être ordinaire, banal.
Et il tue
Martin Luther King au dernier moment.
Et
pourtant, cela change tout.
Ce qui est aussi étonnant, c'est que lorsque votre personnage revient dans le roman, Antonio Muñoz Molina, et en fait, on est dans la même problématique, parce que vous rappelez qu'en 1987, lorsque vous êtes allé à Lisbonne, vous étiez un écrivain débutant, et vous confondiez la littérature et l'imaginaire.
Ah, si, si.
Voilà.
Si.
Et que, en fond, c'est à Lisbonne que vous avez compris que, non, il fallait que la littérature se compose avec le réel.
C'est la leçon exacte. Je pensais.
Exactement cette leçon que j'en ai tirée.
Quasi toutes les nouvelles se pouvaient appeler l'éducation
sentimentale. J'ai pensé que tous les romans pouvaient avoir le titre de l'éducation sentimentale.
Está junto a l'éducation sentimentale.
Et il y a l'éducation sentimentale qui doit aller de pair avec l'éducation esthétique. Parce que il faut comprendre que la littérature ne doit pas être le contraire ou l'opposé de la réalité. C'est aussi accepter que l'on peut écrire autrement. C'est aussi accepter que l'hasard a sa place, que ce qui n'est pas fini a sa place aussi dans l'écriture. Lorsque j'étais jeune, je voulais écrire des romans qui étaient un peu comme des mécanismes d'horlogerie, et ancienne, bien l'ancienne. Bon, maintenant, il n'y a plus de mécanismes d'horlogerie tels que cela, mais mon modèle était cela, vous savez, ces romans policiers.
Ou alors
les films noirs tels que ceux de Hitchcock, où tout est construit avec minutie. Tous les éléments forment partie d'une grande image et tout est organisé à l'avance. Et puis après, on se rend compte que les bonnes histoires arrivent.
Et que l'imagination...
Que dès lors, l'imagination laissée libre est toujours plus pauvre
que
les détails de la réalité.
D'ailleurs, dans la dernière partie de votre livre, Comme l'ombre qui s'en va, Antonio Muñoz Molina, il y a plusieurs pages sur ce que c'est qu'un roman, comme si l'écrivain d'aujourd'hui donnait la réponse qu'était allé chercher l'écrivain de 1987 à Lisbonne. En fait, vous dites qu'un roman, c'est un état d'esprit, un intérieur chaleureux où se réfugier durant l'écriture. Celui-ci était suffisamment chaleureux. J'ai l'impression qu'il a été assez dur, non seulement parce que vous parliez d'un assassin sans beaucoup de panache ni d'envergure, mais parce que vous vous retourniez vous-même sur votre passé Est-ce que ce roman a été pour vous un intérieur chaleureux?
Si, al final si, porque...
En définitive, porque je dirais que oui.
Para mí ha sido importante reconocer la...
Cela a été très important pour moi
vergüenza.
De retrouver et de reconnaître que j'avais honte.
Eso es, ha sido muy importante para mí.
Cela a été très important pour moi.
Y al mismo tiempo, lo que era importante era la sensación
et
de libertad.
Et ce qui était aussi très important, c'est d'avoir ce sentiment de liberté.
Una vez que un libro está escrito,
une
parece que tenía que ser
vous
así.
Vous avez écrit un livre, il semble que
pero
les choses devaient se passer comme
no
ça.
Iba,
mais moi, je ne savais pas du
si,
tout
si iba a terminar
quel
el libro,
chemin j'allais prendre, si, si j'allais terminer le livre,
a
ou si le livre allait finalement être
partes,
totalement
no?
incohérent et n'allait pas se tenir.
Muy bonito, et al final,
il y a eu un moment
yo escribiendo,
très beau, enfin très joli à la
casa,
fin. J'étais en train d'écrire, j'étais à la maison, no? J'étais à Lisbonne et j'étais en train d'écrire.
Y me pasé un día entero
et j'ai passé une journée entière à écrire à la main.
Se me acabó el cuaderno
et donc
se me acabó,
mon cahier était fini
la pluma, no?
Et j'avais même plus d'encre dans mon stylo.
Y lo que escribí fue un capítulo que yo no
j'ai écrit
sabía
un
si
chapitre
incluir,
que je ne savais pas s'il aurait sa place dans le roman parce qu'il était très intime. Et lorsque j'ai fini d'écrire cet après-midi-là,
y eso está contado en la novela.
Et je le raconte dans le roman.
Había quedado con mi esposa para
j'avais
cenar,
rendez-vous
no?
avec ma femme pour
y
aller
entonces,
dîner.
Aunque había dejado de escribir,
et
pero
même si je n'avais, j'avais lâché la plume et je n'avais plus écrit, j'ai senti que ce que j'étais en train de faire
era,
à ce moment-là
no
rentrerait dans le roman. Je ne pouvais
vida,
plus no? séparer le roman de ma vie.
Et eso es un... C'est un regalo, non?
Et ça, c'est un cadeau.
Mais d'ailleurs, je sais que vous aimez bien citer Ruben Dario, qui dit toujours que le repentir et l'oubli sont les deux seules choses qui comptent dans la vie, dans la littérature aussi. Le repentir, on l'a senti. L'oubli, c'est pas du tout pour vous, l'oubli. Il faut que la mémoire reste vive.
Oui, absolument. Je crois que... Bueno, c'est un exercice, non?
C'est un exercice et je crois qu'il est nécessaire d'avoir une mémoire critique, être lucide, qui serait l'opposé de la nostalgie, une mémoire qui soit exigeante. Une mémoire qui va essayer de garder tout ce qui peut échapper à la destruction puisqu'on perd tout. On perd tout. Donc si on peut sauver quelque chose...
Ça s'appelle un livre. Voilà, et c'était votre dernier roman, Antonio Muñoz Molina, Comme l'ombre qui s'en va, traduit de l'espagnol par Philippe Bataillon. Il vient de paraître aux éditions du Seuil. Et je vous remercie d'être venu nous voir.
Traducido maravillosamente por Philippe
Très bien traduit par
no,
Philippe.
No debo olvidar nunca
et je ne dois jamais oublier que ma voix française est celle de Philippe.
Très belle voix, et ce soir, c'était la voix de Paloma Gulmo. Merci à tous les deux. Au revoir.
Merci à vous.
Dans quelques minutes après les informations, vous avez rendez-vous avec Fabienne Chauvière et ses aventuriers. Et pour ma part, j'espère vous retrouver dimanche prochain, un peu après 14h. Nous parlerons de l'exposition Fantin-Latour, très belle, qui vient de s'ouvrir au Musée du Luxembourg à Paris. Très bonne semaine à l'écoute de France Inter.